demander à ce que chacun de ceux qui montent sur l'estrade pour prêcher continue un peu dans cette idée de vision. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Et puis on a eu une longue discussion et puis à un moment il a parlé justement de la fidélité. Et ça m'a fait tilt dans mon cœur, parce que la fidélité, c'est un terme qui est à la fois tellement vaste. Quand j'ai commencé à travailler sur ce thème-là et que j'ai vu l'ampleur du travail dans la fidélité, je me suis dit « oh là là, dans quoi je m'embarque ?» Et on a souvent tendance à mettre la fidélité dans un carcan. C'est-à-dire de se dire aujourd'hui, le plus fidèle ami de l'homme, c'est le chien. Ça, on parle de fidélité dans ce sens-là. La fidélité, on parle souvent du couple. Effectivement, dans un couple, c'est important, la fidélité, de pouvoir avoir cet engagement envers l'autre. Mais la fidélité, elle est aussi dans l'Église. Et elle est surtout dans l'Église. Et pourquoi ? Parce que déjà, le terme fidèle, il est arrivé du fait que, avant, les chrétiens étaient appelés les fidèles. Et c'est de là que les choses ont changé. Alors j'ai pris la définition que j'ai trouvée sur Google. Donc un fidèle, c'est au sens strict une personne qui adhère à une religion et la pratique. Donc quelque part, c'est un chrétien. Et qui par conséquent possède ou recherche la foi. Plus généralement, l'adhésion peut viser une cause profane ou une autre personne. Mais la première partie de cette définition, un fidèle est au sens strict une personne qui adhère à une religion et la pratique. Donc on peut dire qu'un fidèle, c'est un chrétien. Et c'est après ça qu'il y a eu un glissement du terme fidèle qui est devenu synonyme de conforme, identique à un modèle. C'est vrai qu'en tant que chrétien, notre objectif, c'est de pouvoir avoir cette fidélité dans le sens conformité à notre modèle. Notre modèle, c'est qui ? C'est Jésus. Et c'est pour moi un terme qui est important. Alors des fois, c'est vrai que j'ai souvent coutume à le dire, mais quand je prêche, quand je viens sur une estrade pour avoir ce plaisir d'apporter quelque chose à l'Église, je prêche aussi pour moi. La fidélité, c'est pour vous, c'est pour moi, pour chacun d'entre nous ici. Mais lorsqu'on parle de fidélité, on doit aussi aborder des sujets qui sont un petit peu plus, qui font un peu plus mal. Parce que la fidélité, elle est dans tous les sens du terme. Et c'est là où moi j'aimerais aborder, et sans vouloir juger qui que ce soit ou quoi que ce soit, je voudrais qu'on puisse rentrer dans le terme fidélité. Il faut savoir que déjà en préambule, alors je vais citer pas mal de versets, je vais essayer d'aller assez vite parce que quand on met trop de versets dans une prédication, on noie la prédication. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le sujet de la prédication, le sujet de la fidélité est un sujet tellement vaste que j'aurais quasiment pu prendre un verset dans chaque chapitre de la Bible. Dans Galates 5, les versets 22 et 23, déjà on trouve la fidélité dans le fruit de l'esprit. Et je dis bien le fruit de l'esprit. On ne dit pas les fruits de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit dans la Bible. C'est-à-dire que le fruit de l'esprit est une globalité des différents items qui sont repris dans ce verset. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Là, on reprend, quand on dit dans cette dernière expression, la loi n'est pas contre ces choses, on reprend la globalité de la Bible. Aussi bien en Nouveau Testament qu'Ancien Testament. Des fois, on a tendance à dire, oui, mais l'Ancien, aujourd'hui, on est sous la grâce. Si Dieu nous a laissé la Bible dans son entièreté, dans toute son unité, eh bien, on prend aussi la loi. Et la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre le fruit de l'esprit. Et la fidélité en fait partie. C'est pour ça que moi, j'ai voulu me dire, mais me faire une introspection, me dire, mais c'est quoi la fidélité ? Alors déjà, moi, je pense que la fidélité, si on arrive à être fidèle à Dieu, Dieu pourra œuvrer en nous. Et pas l'inverse. On a souvent tendance à dire que Dieu est fidèle, effectivement. Ça va être la conclusion de ma prédication aujourd'hui. Je vais vous citer quelques versets de la Bible où on nous dit que Dieu est fidèle et que Dieu pardonne et que Dieu oublie nos péchés à partir du moment où on a un cœur repentant. Mais la fidélité, elle est aussi et avant toute chose une démarche personnelle de chacun d'entre nous. Vous êtes d'accord avec ça ? J'ai pris pour ça... Je ne sais pas si... voilà. J'ai pris quelques items de la fidélité. Il en reste une. Voilà. Qu'est-ce que la fidélité ? Premièrement, la fidélité, c'est un engagement dans le temps. Pour pouvoir avoir une notion de fidélité, je pense qu'il faut un travail pour ça. Parce que pour être fidèle, la fidélité va être le découlement, ou plutôt le découlement de la fidélité va être qu'on va avoir une confiance l'un dans l'autre. Dieu ne pourra travailler avec vous, avec moi, qu'à partir du moment où on sera fidèle, c'est-à-dire qu'on aura acquis une certaine confiance. Dieu donne rapidement sa confiance, bien évidemment, puisque l'objectif, c'est que l'on puisse le servir. Mais comme je disais tout de suite, ce que veut Dieu, c'est qu'on puisse avoir cette fidélité pour œuvrer au travers de nous. Ensuite, c'est un engagement qui va être constant. La confiance, c'est pareil, ça se travaille. C'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça, d'une seconde à l'autre. Si je prends n'importe quelle personne ici dans la salle et que je vais le voir et que si pour moi c'est un étranger et que je lui dis « Est-ce que tu as confiance en moi ?» Qu'est-ce qu'il va me répondre ? Je te connais pas. Je peux pas avoir confiance en toi pour l'instant parce que je ne te connais pas. Il faut que pour avoir cette confiance, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on apprenne à se connaître pour pouvoir eh bien, faire grandir cette confiance. Et pour ça, pour pouvoir avoir cette confiance, il faudra que toi et moi, on soit fidèles dans un certain contrat. Qu'on ait chacun un contrat, toi et moi, pour que l'on puisse travailler dans la confiance. La fidélité exige un renouvellement régulier. Et enfin, ça garantit, c'est une garantie pour l'avenir. Et on va détailler chacun de ces items. Je répète, l'engagement dans le temps, un engagement constant, ça exige un renouvellement régulier et une garantie pour l'avenir. Et à partir de là, quand on aura cette fidélité avec Dieu, où Dieu verra cette fidélité en nous, il pourra œuvrer et travailler avec chacun d'entre nous. Ah, j'avais même la dernière, vous voyez, j'en ai même oublié une. Garantie d'une récompense au terme. Mais oui, en plus, c'est celui que j'ai mis en dernier, c'est le plus important, plus important. Hébreux 10, 35 et 36, engagement dans le temps. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Là, on rentre déjà dans le dur. Rien que dans ce verset, ces deux versets, Hébreux 10, 35 et 36, on va reprendre, n'abandonnez pas. Déjà, il y a cette constance. Ça veut dire que là, cet engagement dans le temps, on y est déjà. N'abandonnez pas. Bien trop souvent, et j'en reviens à ce témoignage que Sandy donnait tout à l'heure, la guérison. C'est vrai qu'il y a certains sujets pour nous dans la maison, avec Pascaline, avec les enfants, il y a des sujets pour lesquels on prie depuis des années. Et on ne voit pas la réponse. On ne voit pas, vous le savez, c'est par rapport à Pascaline, ses problèmes qu'elle a. Mais pour l'instant, on a vu une progression dans la guérison, mais on n'a pas vu la guérison. Et même si régulièrement, quand on prie avec Pascaline, je prie à Dieu, je dis, voilà, moi Seigneur, tu vas donner une peau nouvelle à Pascaline. Ça, c'est ma prière. Tu vas lui donner une peau toute neuve, parce qu'elle a besoin de ça. Mais on a besoin de rester constant dans la prière. Même si on ne voit pas la réponse à cela, eh bien, on doit rester constant. On doit garder cette fidélité dans la prière avec Dieu. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un de l'Église. Et cette personne disait qu'il y avait eu un appel dans l'Église, c'est à la source, un appel à la prière. Et cette personne a eu une autre personne de l'Église dans le cœur en se disant « Mais cet appel pour la prière, pour la guérison, il faut que cette personne se lève et il faut que cette personne y aille. » Et puis elle a gardé ça pour elle. Et puis la personne à laquelle elle pensait, alors peut-être qu'elle aurait dû la voir, mais cette personne à laquelle elle pensait, elle n'y est pas allée. Elle ne s'est pas levée pour l'appel. Et donc, elle a eu l'occasion d'aller la voir à la suite du culte en lui disant « Mais cet appel, il était pour toi. Depuis des mois, on prie pour toi. Et cet appel, là, on fait un appel. Il y a un appel pour la guérison. Tu es malade, tu ne te lèves pas. » Et la personne lui a répondu « Oui, mais on prie depuis tellement longtemps pour moi. » Elle avait baissé les bras. Cette personne a baissé les bras. Cette personne, j'aurais tendance même à dire qu'elle ne croyait plus dans la guérison. Parce qu'elle a abandonné cette constance. Il n'y a plus cette fidélité dans la foi. Cette fidélité dans la foi en se disant « Mais je vais être guéri. Je vais un jour avoir cette guérison. Dieu va m'accorder cette guérison. » Je pense dans mon cœur, et je pense que vous allez avoir cette même idée que moi, mais je pense que Dieu veut la guérison. Dieu veut qu'on soit guéri. Lorsque vous lisez dans les évangiles ou même dans les actes, ou même plus loin. Mais lorsque l'on lit dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus se priait pour un malade, le malade était guéri. Jésus n'avait pas une prière pour quelqu'un et puis eh bien, il repartait comme l'handicapé sur son brancard. Il n'est pas reparti avec son brancard, ou du moins si, il est reparti avec, mais il l'avait sous le bras. Quand on voit les disciples qui se promenaient dans la rue et que même l'ombre de certains disciples guérissait les malades, même un mouchoir des fois, il y avait cette guérison, il y avait cette onction qui était sur eux, qui guérissait les malades. C'était instantané. Pourquoi ? Parce que les disciples avaient aussi une relation avec Dieu. Ils avaient une relation, ils avaient une constance. Il n'y avait pas cet abandon, mais il y avait une constance, un engagement dans le temps, avec cette relation avec Dieu, de pouvoir dire « Seigneur, moi je veux avoir cette relation avec toi. » Et que de par cette relation que je veux avoir avec toi, eh bien je vais acquérir les fruits que tu veux que je porte. La guérison en fait partie. La guérison en fait partie. On a des malades ici dans l'église. On prie souvent pour Brigitte, en l'occurrence. On a prié dernièrement pour Philippe Delplanque. Et Philippe, il a été guéri. Quand on voit ce qui s'est passé dans sa vie, il y a des guérisons. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une constance, il faut qu'il y ait une foi, il faut qu'il y ait vraiment un engagement dans le temps. N'abandonnez donc pas votre assurance. C'est quoi l'assurance ? C'est la foi. La Bible nous le dit bien. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'assurance, n'abandonnez pas votre assurance, n'abandonnez pas votre foi. Soyez constant, soyez fidèle. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alors déjà là, on voit les dollars dans les yeux quand on dit ça. Une grande rémunération, waouh, je vais toucher un petit pactole. Là. Je sens que si je reste constant, Dieu va me récompenser, sympa. Mais effectivement, la rémunération, elle est là. Et Dieu nous la promet, on le verra plus tard. Car vous avez besoin de persévérance. On a besoin de persévérance. Le propre de l'homme, c'est de baisser les bras. Le propre de l'homme, c'est de baisser les bras. Dernièrement, j'entendais à la radio une émission et il y avait un comparatif entre les deux mentalités françaises et américaines. Et en l'occurrence, concernant la création d'entreprises. Lorsque, en France, on monte une entreprise et qu'on échoue et qu'on dépose le bilan, qu'on met la clé sous la porte, on se dit « Oh là là, moi je vais redevenir salarié parce que on a la peur de l'échec. » On acquiert une peur de l'échec. Aux États-Unis, lorsqu'un Américain ouvre une entreprise et qu'il fait faillite, qu'il met la clé sous la porte, les mêmes circonstances, il se dit ben, « Ok, la seconde fois, je ne ferai pas les mêmes bêtises. » Et il repart, et il refait. Et cette émission, elle m'a frappé parce qu'il y a cette constance à se dire ben, « Voilà, je vais peut-être faire des erreurs dans ma vie, mais la constance, cette fidélité que je vais avoir avec Dieu, même si je fais des erreurs, je vais apprendre de mes erreurs parce qu'il y a toujours du positif dans chaque épreuve. » Vous êtes d'accord avec ça ? Chaque épreuve a du positif. Une épreuve comme Paul, ce qu'il vient de traverser, il y a du positif. Et le positif, il est là, c'est que Paul est ce matin avec nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es un grand Dieu, c'est toi qui guéris. N'abandonnez pas, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Cette dernière phrase, elle est... On pourrait mettre un « si » avant. Si vous accomplissez la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Elle est bien mise dans le bon sens, cette phrase. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Les promesses, elles sont pléthores. Il y a énormément de promesses dans la Bible. Et Dieu veut tellement travailler avec vous, avec moi, avec nous. Il veut tellement qu'on puisse rentrer dans cette présence, dans cette fidélité, pour que quand il va voir la fidélité qui est en chacun d'entre vous, et avec moi, et en moi, eh bien qu'il puisse dire « Ok Fred, t'es fidèle, on y va. » Luc 16, 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Là, c'est important parce que, mais à chaque fois je vais le dire que c'est important parce que chaque verset a son importance. Mais ici, on parle bien que Dieu, avant de nous donner des grandes choses, va nous confier des petites. Vous êtes d'accord avec ça ? S'il voit votre fidélité dans les petites choses, C'est là qu'il va commencer à dire, OK, bon là, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et c'est là le sujet de la confiance dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'une confiance, ça va s'acquérir au fur et à mesure du temps. Dieu va commencer à mettre de la confiance en soi, en chacun de vous, en chacun de nous. Et à partir de là, eh bien, il va dire, OK, les petites choses, allez, est-ce que déjà tu vas au culte tous les dimanches ? Oula, ça c'est un sujet déjà qui... Oula, Fred, tu vas fort. Est-ce que tu vas au culte tous les dimanches ? Ouais, Seigneur, je vais au culte tous les dimanches. Il y a des dimanches où je reste un peu couché quand même. Hein. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est... Je ne dis pas que c'est une petite chose, mais déjà, c'est une chose assez sympa. Bon, tu vas au culte, ok. Tu vas pas tous les dimanches, d'accord. Attention, je vais lâcher une bombe là. Est-ce que tu arrives à l'heure au culte ? Oh Seigneur, j'ai du mal aussi à me lever le matin. J'ai du mal. Attends, t'as regardé Fort Boyard hier soir, ça commence à 21h, t'as pas raté le début, hein ? T'as raté le début de Fort Boyard hier soir ? Ben non, hein, parce qu'il fallait que je voie la présentation de l'équipe, etc. Ben alors, et tu peux pas arriver au culte à l'heure ? Il y a une équipe qui est là, on peut te faire la présentation de l'équipe. Je suis désolé, c'est une bombe hein, ce que je lâche là. C'est pas méchant. Mais c'est des petites choses. C'est des petites choses qui permettent de dire à Dieu, ok, là il est fidèle là, il est fidèle là. Je peux en lâcher plein des bombes comme ça. Et je l'ai dit tout à l'heure, la fidélité, c'est un sujet qui est tellement vaste, mais c'est aussi un sujet qui blesse. Il y a des sujets qui, pour moi, dans la fidélité, vont me blesser. Parce qu'on a tous, à travailler sur certains sujets dans notre fidélité. J'ai ma télécommande qui ne marche plus depuis tout à l'heure et je n'arrive pas à la faire avancer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. On a tendance, hier je regardais un petit peu sur des sites chrétiens et je regardais un peu les témoignages de ce qui se passe, en l'occurrence avec l'organisme qui s'appelle Porte Ouverte. Et on voit des choses tellement grandes qui se passent. Il y avait pas mal de témoignages sur la Corée, ce qui se passe en Corée où aujourd'hui il y a la persécution avec les chrétiens. Vous êtes chrétien, boum, on vous descend. Et il y a quand même, malgré ça, des miracles. En Chine, les chrétiens sont persécutés avec Dieu, mais ils restent avec cette fidélité, même s'ils risquent leur vie chaque jour. Chaque jour, ils risquent leur vie en se disant chrétiens. Mais ça ne les empêche pas de prier pour la France. Un peuple persécuté comme les chrétiens de Chine prie pour la France. Et ça, c'est beau. C'est une fidélité, c'est un travail que Dieu aime. Parce qu'ils sont fidèles dans les petites choses en disant « Ok, moi je suis chrétien, je le reste, je reste dans cette constance, mais je vais aller plus loin encore. Je vais même me permettre, même en étant persécuté, je vais me permettre d'aller prier pour un autre peuple qui, lui, n'est pas persécuté. » On ne peut pas dire qu'on soit persécuté en France, même si Vincent Peillon veut abolir tout ce qui est chrétien. Mais non, on n'est pas persécuté, pour le moment. Ça peut arriver, ça va arriver. Certaines personnes, des fois, me disent « Mais Fred, qu'est-ce que ce serait bien ?» Ou, je l'ai entendu, c'est pas forcément à moi, mais c'est vrai que j'ai entendu des chrétiens dire « Mais quand on lit les Actes des Apôtres, qu'est-ce que c'était bien ?» L'Église primitive, mais qu'est-ce qu'ils étaient bien ? Ils voyaient des miracles, etc., etc. Oui, mais moi, on m'a appris à l'école biblique, on m'a dit « Fred, si tu veux vraiment bien étudier l'Église primitive, tu prends trois catégories. Tu prends les miracles, tu prends la croissance de l'Église et tu prends la persécution. » Il y a plus de versets sur la persécution dans les Actes des Apôtres. Les chrétiens étaient là, avaient cette fidélité dans le cœur, en se disant « mais je vais rester fidèle même si je suis persécuté ». Et de là, ok, ils ont connu la présence de Dieu. Ils ont vu la présence de Dieu. Il y a des témoignages dans la Bible comme Ananias et Saphira. Pourquoi ils sont morts, Ananias et Saphira ? Parce que la présence de Dieu était telle que le péché ne pouvait pas être là. Ils ont été foudroyés parce qu'ils ont menti devant Dieu. Donc ce verset, Luc 16, 10, l'engagement constant. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Commencez par des petites choses. Ne cherchez pas à faire des grandes choses. Si demain je demande à mon fils de soulever 50 kilos, moi je suis capable de les soulever, je peux en soulever peut-être plus, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé, j'en sais rien, mais... Si je demande à Nicolas en lui disant « Vas-y, soulève-les les 50 kilos », peut-être qu'il va réussir sur une courte période. Mais ça reste un enfant. Il faut que je puisse garder cette croissance. Il faut que je garde en tête que mon fils va grandir. Et que mon fils va peut-être être plus grand que moi. Et qu'il aura peut-être plus de force que moi. Je lui souhaite. Mais pour l'instant, à 11 ans, Je ne peux pas lui demander des choses que moi je fais. Il faut que je garde cette patience et il faut que je garde cette confiance en lui. Cette confiance de me dire, mon petit gars, tu vas apprendre. Et au fur et à mesure des mois, des années, eh bien tu vas apprendre, tu vas acquérir ce que moi j'ai acquis pendant 40 ans de ma vie. La constance, rester constant. Tu peux, ouais, s'il te plaît, parce que Mathieu, comment je pense que les piles commencent à... Une deuxième fois, voilà. Un renouvellement régulier. Josué 1,8. Moi, j'aime ce verset de la Bible. D'ailleurs, Aurélie commence à l'apprendre par cœur, parce qu'il fait partie de l'école biblique, celui-là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il est beau ce verset. Et on pourrait le donner, ça, sur des tons différents, sur le ton de la colère. Mais que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. On pourrait le dire avec beaucoup d'amour, mais que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. On peut le dire avec tous les tons, on pourrait faire du théâtre sur ce verset. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. La fidélité, elle est là pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui réussissent. Il y a des chrétiens qui ont des entreprises. Je parle dans le monde de l'entreprise, dans le monde actif. Il y a des chrétiens qui ont des entreprises qui réussissent très bien. Il y a aussi des chrétiens qui réussissent très bien, qui ont des très beaux témoignages dans leur ministère. Mais avant ça, il y a eu un prix à payer. Et ça, c'est Germain qui nous l'a enseigné. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est que Germain y revienne pour nous le redire. Eh, le prix à payer. Vous vous souvenez de Germain quand il nous disait ça? Il y a un prix à payer. Si vous voulez voir l'Église avancer, il y a un prix à payer. Et pour ça, il faut que l'on puisse avoir cette constance et pouvoir rester avec le livre, la Bible, proche de notre bouche et qu'on le médite jour et nuit pour pouvoir réussir dans nos entreprises. Et c'est alors qu'on réussira. Moi, j'ai cette foi dans mon cœur de me dire qu'on va réussir. On va réussir. Et même si c'est avec une partie de l'Église, on essaiera de tirer vers le haut les autres. Et moi, j'espère être dans l'équipe de ceux qui tirent. Mais ça n'empêche qu'il y a des moments où j'ai des coups de blues et je peux être en bas. Mais il y en aura un autre qui viendra dans l'église et qui me dira, Fred, t'es en bas, viens, je vais te tirer. Et avec Dieu, on va réussir. Parce que Dieu veut que notre entreprise marche. Dieu veut voir son église grandir. Dieu veut voir son église grandir dans la foi. Dieu veut qu'on puisse grandir dans la fidélité, dans cette constance. Dieu veut qu'on puisse grandir en quantité. Dieu veut qu'on puisse grandir en qualité. Dieu veut qu'on puisse être un exemple. Comment on s'appelle? Comment cette église s'appelle? Le phare. C'est quoi un phare? Un phare, c'est un joli bâtiment qui est peint en rouge et blanc, avec une jolie loupiote là-haut? Non. Elle est un phare pour pouvoir guider les bateaux dans la nuit. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on les visite, les phares. Et maintenant, il y en a même un sur la tour Eiffel. Mais c'est ça. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai dans mon cœur, c'est que le phare puisse être vraiment un phare dans la métropole de Lille. Mais pour ça, il faudra qu'on le fasse avec une constance. Il faudra qu'on puisse rentrer dans une vision. Et c'est là où, Antoine, avec la discussion qu'on a eue ensemble, c'est de dire, voilà, la vision, il faut qu'on rentre dedans. Il faut qu'on rentre dedans. Et un des sujets qui est primordial pour entrer dans la vision, c'est la fidélité. Josué 1,8, retenez-le ce verset-là, il est superbe. Deutéronome 7,9, je continue dans mon déroulé. La garantie pour l'avenir. On aime bien avoir des garanties, non? On va acheter une voiture, on veut une garantie pièce et main-d'œuvre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça va même plus loin maintenant, c'est Hyundai qui fait encore plus, il fait à vie. C'est chouette une garantie à vie, non? On aime bien avoir des garanties. On va acheter un téléphone, on aime bien que si on a le dernier iPhone 5, eh bien qu'il ait une petite garantie, qu'on pète pas l'écran, parce que si on pète l'écran, ben voilà, c'est une bébête à 800 € qui va à la benne. On aime bien avoir ces garanties. La plus belle des garanties, c'est une garantie éternelle. Merci Aurélie. J'en ai une qui... Bien, c'est bien. Elle fait l'école biblique l'année prochaine à Mulhouse. Mais la plus belle des garanties, c'est une garantie éternelle. Et Dieu veut ça. Dieu veut nous donner une garantie éternelle. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ça vous remue pas là, dans les tripes, là ? La millième génération. Quand on considère que dans la Bible, une génération, c'est 40 ans. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Envers ceux, ça veut dire que si tu es fidèle, sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Et si tu gardes donc son enseignement, eh bien, lui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Si tu l'aimes et si tu observes ses commandements, voilà, c'était dans ce sens-là que je voulais dire cette phrase. Si tu l'aimes et si tu observes ses commandements, alors ton Dieu fidèle, lui va garder son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération. La garantie sur l'avenir. Garantie sur l'avenir, c'est de pouvoir dire Seigneur, ok. J'en parlais avec Nicolas. Je dis, mais Nicolas... Et hier, il m'a posé la question, il me dit, mais c'est vrai qu'avant avant Jésus-Christ, les gens dans la Bible, ils vivaient 800 ans ? Ben, je dis, oui. Il dit, mais aujourd'hui, il n'y a plus de personnes qui vivent 800 ans. Non. Par contre, si tu donnes ta vie à Dieu, toi, tu vas vivre éternellement. Ah ouais ? Oui. Parce que Dieu nous permet d'avoir cette garantie, de pouvoir dire, ok, la garantie de l'éternité. Mais l'éternité, moi, je préfère la passer du bon côté. Et de pouvoir rentrer dans ses commandements, et de pouvoir aimer un Dieu qui est Dieu, un Dieu qui est fidèle. Moi, ça me remue les tripes, ça. L'expression de fidélité, ou le sujet de fidélité, c'est un sujet qui est tellement vaste, qui est tellement beau, qui peut être précis, qui peut être très précis. Mais à partir du moment où on a cette constance dans la fidélité, Dieu agit. De Timothée 4, 7 et 8. La garantie d'une récompense au terme. Et voilà, la voilà la garantie de l'éternité. Paul le disait bien, moi je veux continuer à courir la course pour pouvoir avoir ma récompense. Même si dans une course, on peut être plusieurs concurrents, ça n'empêche que le but du jeu, c'est peut-être pas de la gagner cette course, c'est d'y avoir participé et de pouvoir franchir la ligne d'arrivée. De Timothée 4, 7 et 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà, ça y est, j'ai couru ma course. Lorsque j'étais dans l'église de Bernay, on avait un petit grand-père que j'aimais énormément. Il s'appelait Julien Gély. C'était un monsieur qui était unijambiste, il avait une jambe de bois. Et j'avais, à cette époque-là, j'avais 16 ans, 17 ans. Et c'est un monsieur avec qui j'aimais beaucoup partager, il me faisait du bien. Quand vous étiez près de lui, vous sentiez quelque chose. Il y avait Julien, il avait une petite femme qui était superbe. Et un jour est arrivée l'heure de sa mort. Et puis il a dit, mais ma mission est accomplie. Dieu lui avait révélé quelle était sa mission. Et le jour où sa mission a été remplie, il a dit « Ok, je ne vais pas tarder à mourir parce que j'ai fini ma mission. » C'est la seule et unique fois de ma vie où j'ai entendu ça. Où quelqu'un est venu me voir en me disant « Voilà, Dieu m'a montré ma vision. Dieu m'a montré ma mission. J'ai rempli ma mission. Je suis rentré dans ma vision. Et maintenant, voilà, je peux mourir heureux. » Quel bonheur de pouvoir rentrer dans cette mission, de pouvoir accomplir la mission que Dieu nous confie, nous accorde, de rentrer dans notre vision. J'ai déjà prêché sur la vision. Il n'y a rien de pire qu'un jour de mourir et d'arriver devant Dieu et que Dieu nous dise, alors, je t'ai donné ta vision, t'en as fait quoi ? C'est la parabole des talents, hein, Matthieu 25, parabole des talents. Où le maître donne des talents et puis il revient. Et puis le troisième, il dit, moi, écoute, je l'ai juste enterré parce que je sais que tu es un Dieu juste. Pas un Dieu juste, mais un serviteur sévère. Et voilà, j'ai voulu te rendre ton talent. Ouais, mais tu ne l'as pas fait fructifier. Tu ne l'as pas fait fructifier. Ok, tu me le rends, mon talent. Mais ce n'était pas ça que je te demandais. Et un jour, je pense que pour un chrétien, c'est pour moi quelque chose de dur d'arriver devant Dieu et de dire, mais Seigneur, moi, ton talent, tiens, je te le rends. Il est tout neuf. Il est tout neuf, je ne l'ai pas utilisé. Et Dieu nous dira, mais moi, je voulais que tu rentres dans ce talent. Je voulais que ce talent, tu le fasses fructifier. Je voulais qu'avec ce talent, tu puisses travailler pour l'Église. Je voulais qu'avec ce talent, tu puisses travailler en dehors de l'Église. Je voulais qu'avec ce talent, tu fasses ce que tout chrétien doit faire. Et mon ami Julien, avant de mourir, m'a dit, j'ai accompli ma mission. Je suis persuadé que je vais le revoir, Julien. Parce qu'aujourd'hui, il est rentré dans la paix du Père. Donc là, c'est Paul qui nous le dit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est dur de garder la foi. C'est dur de garder la foi. Il ne faut pas croire. Des fois, il y a des personnes qui vont dire à d'autres, mais vas-y, donne ta vie à Jésus, tu verras, ta vie sera rose. Ah bon ? Bah, je dois changer de lunettes, parce que moi, je ne vois pas rose. La vie avec Dieu, elle est dans le sens où on a quelqu'un de plus à nos côtés qui va nous aider à passer des épreuves. Mais ça ne veut pas dire que les épreuves, elles ne sont pas là. Les épreuves, elles sont toujours là et on devra les traverser. Sauf qu'on a cette espérance, on a un Dieu qui est juste, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui veut qu'on puisse traverser les épreuves avec du positif. Vous êtes toujours avec moi ? Ah, t'en as raté une. Votre fidélité récompensée. La fidélité récompensée, c'est de pouvoir finir cette course et de pouvoir dire, Seigneur, ok, moi je vais aller plus loin avec toi. Je veux continuer. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, on pourrait le répéter, ça. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vous savez quoi ? Il y a un mois de ça, dans la nuit, je me suis mis à dire ça. Je n'ai rien demandé, moi. Je dormais. À la base, je dormais. Et je me suis réveillé et j'ai cette phrase qui est revenue. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien. Et j'ai répété, dans la journée, j'ai dû répéter cette phrase au moins 200-300 fois. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Prenez vraiment conscience de ce que vous dites quand vous dites cette phrase-là. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il y a un mois de ça, on était avec Pascaline, on était assez perturbés. On ne va pas dire anxieux, parce que je ne veux pas rentrer dans l'anxiété. Mais on était perturbés avec tout ce qui se passe avec la maison, la construction de la maison, les finances, etc. Et puis, en pleine nuit, j'ai cette phrase qui est arrivée. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on voit les bénédictions qui arrivent. Et on garde cette fidélité avec Dieu. Il y a une chose qui est primordiale, et ça je vais me gargariser un petit peu, mais même dans les périodes de chômage que j'ai eues dans ma vie, on a continué à donner la dîme. J'ai continué à donner ma dîme, même sur le chômage. Parce que je sais que si on est fidèle à Dieu, là vous pouvez très bien dire, ah ça y est, il va encore nous parler d'argent. Ouais, je vais vous parler d'argent. Parce que la dîme, ça fait partie de l'argent. Oui, ça fait partie de ce que Dieu nous donne. Mais Dieu ne veut pas votre argent. Comme disait Paul Goulet à la convention, mais Dieu, il a juste à donner un petit coup dans un pavé en or, et puis hop, ça nous tombe dans le porte-monnaie. Il n'a pas besoin de notre argent. Par contre, ce que veut voir Dieu dans votre dîme, c'est quoi ? C'est votre fidélité. C'est de dire, Seigneur, ok, moi je suis dans une période aujourd'hui où c'est dur, mais je sais que tu vas pourvoir. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si tu aimes Dieu, et si tu restes fidèle à Dieu, rien ne peut t'arriver. Tu as Dieu avec toi. On a un grand Dieu. On a un grand Dieu. On a un grand Dieu. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est le seul Dieu. C'est le seul Dieu, donc c'est le plus grand. On peut avoir plein de petits dieux dans notre vie, mais le but du jeu, c'est d'honorer et d'aimer le grand Dieu. Pour terminer, je vais juste citer quelques versets, parce que Dieu est fidèle. Je vous ai parlé de votre fidélité, maintenant je vais vous parler de la fidélité de Dieu. Mais ça va être très rapide. Deutéronome 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment, qui observent ses commandements. Ça vous rappelle quelque chose ? Je l'ai donné tout à l'heure. Ensuite, il y a 32, verset 4. « Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit. » 2 Samuel 22, verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Donc là, Samuel qui s'adresse à Dieu. Le psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Lamentation. Donc là, le chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et pour finir, 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai rien de plus à ajouter. On a bouclé la boucle. La fidélité. Gardez en tête la fidélité. Ne venez pas à l'église pour vous, pour les autres, venez pour Dieu. Entrez dans votre service, non pas pour vous, non pas pour les autres, mais faites-le d'abord pour Dieu. Ne louez pas Dieu pour les autres, pour vous, mais pour Dieu. Ne donnez pas votre dîme pour les autres, pour vous, mais pour Dieu. Gardez cette fidélité. Gardez-la, cette fidélité. Chérissez-la dans votre cœur. Et à partir de là, Dieu va abonder. Et Dieu va surabonder. Et Dieu va être là derrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que je peux entendre un grand amen? Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ces moments. Je te remercie pour ce que tu m'as mis dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que tu es ce Dieu fidèle. Et moi, je veux garder cette fidélité. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, Seigneur, de pouvoir garder cette fidélité envers toi. Parce qu'il y a des moments où on a des coups de blues. On a des moments où on a le moral dans les baskets. Mais Seigneur Jésus, toi, tu es fidèle. Toi, tu es fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Et tu sais, et je sais, Seigneur, que si je veux revenir à toi, que si, Seigneur, je viens te voir en te disant, mais Seigneur, j'ai le moral dans les baskets, je veux revenir vers toi. Eh bien, toi, tu es là et tu me dis, ok, viens, Fred, on y va. Et tu le fais avec chacun d'entre nous. Tu le fais avec chacun de ceux qui veulent te servir, Seigneur. Et c'est tellement bon, Seigneur, de pouvoir rentrer dans ton service. C'est tellement bon de pouvoir se dire qu'on a un travail qui est pour Dieu, pour ce Dieu, pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Seigneur Jésus, donne-moi de toujours avoir en tête que tu es un grand Dieu. Parce que si j'ai dans ma tête que tu es un grand Dieu, eh bien je verrai de grandes choses. Seigneur Jésus, vraiment, je te remercie parce que ces moments qu'on passe, Seigneur, ensemble, en famille, eh bien, ils sont pour toi. Ils ne sont pas pour les autres, ils ne sont pas pour se gargariser, mais c'est vraiment pour toi. C'est de pouvoir te rendre un culte parce que toi seul en es digne, Jésus. Et vraiment, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce et je veux continuer, Seigneur, à pouvoir entrer dans cette grâce. Seigneur Jésus, que tu puisses abonder, surabonder. Et vois cette église, Seigneur Jésus, cette église du phare. Vois cette église de la source. Et vois combien, Seigneur Jésus, notre cœur, Seigneur, est de pouvoir te servir. Et de pouvoir avancer avec toi. Et de pouvoir, Seigneur Jésus, continuer dans ton œuvre. Et de pouvoir, Seigneur Jésus, voir ton royaume arriver sur cette métropole de Lille, Seigneur Jésus. Alors je sais qu'on a des Parisiens dans l'église, mais je vais prêcher pour Lille. Je veux prier pour Lille ce matin, Seigneur. Vraiment, je te remets, Seigneur, Lille, la métropole, et que tu puisses nous permettre, Seigneur Jésus, que grâce à notre fidélité, on puisse voir, Seigneur, ton royaume avancer, ton royaume, Seigneur Jésus, grandir sur la métropole de Lille, et que l'on puisse, Seigneur, voir ce nord de la France, Seigneur Jésus, avec tous les feux au vert. Les feux au vert, Seigneur Jésus, pour que l'on puisse voir ton royaume et qu'on puisse rentrer dans ce royaume, Seigneur. Vraiment, je te rends grâce. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la puissance, Jésus. Amen.